France Culture, il est midi et demi. Bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La question des travailleurs détachés divise l'Europe. Les ministres du Travail réunis à Bruxelles pour réviser cette directive. La France souhaite sa révision, mais elle a contre elle les pays de l'Est qui défendent le statu quo. Analyse d'Anne-Laure Chouin dans un instant. La logique de sécession de la Catalogne franchit une nouvelle étape ce matin. Le Parlement de Barcelone va se réunir jeudi au moment où le Sénat espagnol annoncera la nomination d'un gouverneur unique pour la province. On retrouvera sur place Mathieu de Taillac à Madrid et Mathilde Dehimi à Barcelone. Les deux régions les plus riches d'Italie, parmi les plus riches d'Italie, la Lombardie et la Vénétie, votent en faveur d'une plus grande autonomie. La participation a été suffisante ce dimanche pour leur donner un pouvoir de négociation face à Rome. Précision avec Marie-Pierre Véraud. Et puis la droite nationaliste l'emporte au Japon après les élections d'hier. Le Premier ministre Shinzo Abe détient un nouveau mandat avec une très grande majorité pour théoriquement pouvoir réformer la constitution pacifiste du pays. Correspondance avec Frédéric Charles, l'invité de la séquence interview en direct de l'Assemblée nationale, Amélie de Montchalin, qui est députée La République En Marche de l'Essonne. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Pourquoi est-il si facile de se mettre d'accord sur la désespérance du monde et si difficile pourtant de lui désobéir? C'est la question phare du livre de Frédéric Gros, le philosophe, notre invité à partir de 12h55. On va donc réfléchir autour de l'obéissance et surtout de la désobéissance avec lui.
L'Europe donc face à l'épreuve de cette question des travailleurs détachés. Les ministres du Travail sont réunis à Bruxelles aujourd'hui pour tenter d'adopter une révision de cette fameuse directive qui permet, rappelons-le, à des salariés de pays membres de travailler dans un autre pays de l'Union tout en payant leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine. Le système a été mis en place en 1996. Il a souvent été accusé d'organiser un dumping social, notamment entre les pays de l'Est et ceux de l'Ouest. Le président français s'est récemment mobilisé sur le sujet. Emmanuel Macron réclamait des garanties fortes à ses partenaires, mais cette révision de la directive, qui dure maintenant depuis 18 mois, le processus de révision concentre les contestations des pays de l'Est, et en particulier de la Pologne, de la Bulgarie et de la Roumanie. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Avec cette question donc des travailleurs détachés, on est vraiment au cœur d'un dilemme européen entre solidarité et concurrence. Est-ce que la concurrence entre les États membres a pour vocation d'égaliser vers le bas les régimes sociaux?
Alors ce qui est sûr, c'est que malgré la quantité de travailleurs dont on parle, 0,7% seulement des travailleurs européens, c'est un sujet qui questionne effectivement le peu d'Europe sociale qui existe jusqu'à présent, car il oppose justement deux modèles sociaux. En gros, les pays qui ont un salaire minimum et des salaires en général plus élevés, et ceux qui n'ont soit pas de salaire minima, soit très bas. On rappelle que cette directive travailleurs détachés de 1996 avait à l'époque pour objectif de favoriser la mobilité dans l'espace européen. C'était une Europe plus petite et plus homogène, avec moins d'écarts salariaux. Avec l'agrandissement et l'entrée notamment des pays d'Europe de l'Est, cette directive est devenue un moyen pour des entreprises transfrontalières de dégager des profits en utilisant une main-d'œuvre moins chère. Aujourd'hui, en effet, ces travailleurs détachés sont plus souvent du personnel peu qualifié, placé par des agences d'intérim qui proposent une main-d'œuvre ultra compétitive à des multinationales, et beaucoup moins du personnel qualifié d'entreprises mères qui souhaitent se développer à l'étranger. Le cœur de ce que propose donc la France pour y remédier, c'est un principe simple: à travail égal dans un pays, salaire égal. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, qui sont les pays dont les entreprises détachent le plus de travailleurs, y sont opposés. L'Espagne et le Portugal aussi, surtout au niveau du secteur routier.
Voilà, et donc probable qu'Emmanuel Macron n'obtienne que très partiellement satisfaction lors de cette réunion à Bruxelles.
Et sur ce sujet particulièrement, en effet, le président français avait commencé par heurter les pays que je viens de citer, en désignant notamment la Pologne comme se mettant en marge de l'histoire et des valeurs européennes avec ce refus de réformer la directive. Pas le meilleur moyen d'arriver au compromis, a priori, mais force est de constater que le pays a un peu bougé sur la question, aussi parce que les travailleurs polonais, malgré ce que dit leur gouvernement, ne trouvent pas forcément grand intérêt à se voir sous-rémunérés dans des pays où la main-d'œuvre nationale gagne plus qu'eux. Un compromis pourrait se dessiner, mais qui sera sans doute en deçà de ce que souhaite la France.
Anne-Laure Chouin, merci beaucoup. On est en ligne avec l'invité de la séquence interview, Amélie de Montchalin, bonjour.
Bonjour.
Député de La République En Marche de l'Essonne. Alors on voit bien là qu'il y a une difficulté pour le président de faire adopter une nouvelle règle concernant ces travailleurs détachés, comme s'il y avait finalement une logique à l'œuvre qui était celle du minima pour ce qui concerne notamment le social et peut-être aussi l'environnemental. Est-ce qu'il ne faut pas changer la logique interne des institutions ?
Ce que ça montre là, c'est qu'on est la France de retour en Europe pour parler d'un problème concret qui est celui de l'emploi. Ça fait déjà quelques mois, voire années, que ce sujet est en discussion. C'est important qu'on ait actuellement un vrai débat sur une piste de sortie concrète d'une question sur laquelle on échange depuis des années. Ce que ça montre surtout, c'est que déjà, si on trouve un accord, ça montre que l'Europe est capable à nouveau de prendre des décisions concrètes sur des sujets d'enjeux vraiment économiques de premier plan.
Pour l'instant, elle ne l'est pas.
Alors aujourd'hui, la discussion à laquelle Muriel Pénicaud participe donc sera forcément compliquée. Nous, la France, on a vraiment une exigence, c'est qu'on avance, c'est qu'on prenne pas des engagements pendant 5 ans, qu'on essaie de réduire la fenêtre de temps pendant laquelle les choses vont rester en l'état actuel, à savoir quand même très problématique en termes concurrentiels. On a vu il y a quelques semaines un mouvement des routiers en France qui disait que que leur préoccupation venait des ordonnances de la loi travail. En fait, leur préoccupation, elle vient d'abord et avant tout de la concurrence qui subissent les pays de l'Est. Donc on voit bien que c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas qu'on tourne trop tous autour de la difficulté à se mettre d'accord. Il faut qu'on trouve un accord et surtout que cet accord s'applique rapidement.
Amélie de Montchalin, merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. On continue à parler d'Europe et plus précisément de la crise institutionnelle entre Madrid et Barcelone qui doit franchir cette semaine un nouveau seuil dans la logique de sécession qui semble maintenant en place, avec d'un côté l'annonce du vote par le Sénat espagnol de mesures pour reprendre en main la situation administrative du pays, et de l'autre la réunion fixée à jeudi du Parlement catalan pour discuter d'une éventuelle proclamation d'indépendance. La bataille s'est poursuivie ce matin par déclaration interposée. À Barcelone, un porte-parole des affaires étrangères affirme que toutes les institutions, à commencer par la police, doivent suivre les instructions des institutions catalanes démocratiquement élues, mais à Madrid, la vice-présidence du gouvernement parle, elle, de la nomination d'un gouverneur pour la province. On est en ligne avec Mathieu de Taillac. Bonjour.
Bonjour Antoine.
C'est ce dont on parle donc maintenant, d'un représentant unique qui pourrait donc être nommé pour gouverner la région, une fois l'article 155 voté vendredi par le Sénat.
Oui, la vice-présidente du gouvernement espagnol était interrogée ce matin sur la radio privée Onda Cero. Soraya Sanz de Santa María, c'est la numéro 2 de la Roy, c'est aussi la ministre des collectivités territoriales, donc elle est censée bien connaître le sujet. Les journalistes ont demandé de quelle manière Madrid entend transmettre ses ordres à l'administration catalane, et visiblement c'est encore très flou. Soraya Sanz de Santa María a dit que l'institution d'un représentant unique, comme vous l'avez souligné, est une possibilité, mais la décision appartient au président du gouvernement, à Mariano Rajoy donc. En fait, la grande question que l'on se pose, c'est comment répondre en cas d'insubordination des dirigeants catalans, des hauts fonctionnaires, éventuellement des fonctionnaires tout court. Sanz de Santa María, interrogé à plusieurs reprises là-dessus, n'a pas vraiment répondu. Elle a refusé d'envisager une rébellion. Quand le Sénat aura voté les mesures, a-t-elle dit, Monsieur Puigdemont, le président catalan donc, ne sera plus président, il ne touchera plus son salaire, sa signature ne sera plus valide, il n'exercera plus ses fonctions. Tout ça reste à voir. Puigdemont a suffisamment donné d'exemples dans ses déclarations et dans ses actions pour que l'on doute de sa docilité.
Mathieu Taillac, merci, en direct de Madrid. À Barcelone, on anticipe évidemment cette nomination. Le gouvernement régional s'affirme le seul légitime. La question est de savoir que vont faire maintenant les fonctionnaires catalans, notamment et en particulier la police. C'est bien toute la question qui est posée, Mathilde Dehimi.
Et à Barcelone, on navigue aussi un peu à vue, car personne ne sait exactement comment vont se décliner dans chaque service, chaque couche de la société, les mesures annoncées par Mariano Rajoy. Pour la police, par exemple, Antoine, Madrid disait hier envisager de remplacer le chef des Mossos catalans, donc poursuivi pour sédition, soit par un autre Mossos, soit par un policier national. Des policiers ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'obéiraient pas de toute façon à des ordres venant de Madrid. Même interrogation du côté des médias de services publics, TV3, Catalunya Radio. Ils se réunissent en Assemblée Générale tout à l'heure dans une heure pour regarder de près avec des juristes les recours possibles, leur marge de manœuvre pour ne pas se soumettre à une nouvelle direction. D'autres ont des positions plus fermes, appellent à la résistance ce matin pour le grand syndicat enseignant catalan, mot d'ordre de désobéissance civile pour la CUP, le parti de gauche radicale qui dispose de 10 parlementaires. Vous le disiez, une figure du gouvernement catalan, le conseiller des affaires étrangères Raúl Romeva demande aussi ce matin au haut fonctionnaires de ne pas suivre là aussi les ordres de Madrid. On ne sait pas encore quelle voie empruntera le Parlement et Carles Puigdemont, ce sera jeudi en session plénière. Mais on le voit, Antoine, la société catalane, celle qui porte en fait le mouvement indépendantiste depuis de nombreuses années, et elle prête à paralyser les institutions pour bloquer cette mise sous tutelle.
Mathilde Imi, donc, en direct de Barcelone, merci.
On dit parfois que ce qui se passe, Antoine Mercier, en Vénétie et en Lombardie n'a rien à voir avec cette situation catalane. Il n'en reste pas moins qu'il y a bien certaines similitudes.
Et oui, les deux régions sont par exemple parmi les plus riches d'Italie. Elles ont donc voté hier à une écrasante majorité en faveur d'une plus grande autonomie, participation qui a été suffisante, notamment en Vénétie, pour donner au pouvoir un pouvoir de négociation de ces deux régions face à Rome, Marie-Pierre Véraud.
Oui, 57% en Vénétie. Et si 40% pour la Lombardie, et ce qui est frappant, bien c'est surtout l'ampleur du oui à plus d'autonomie, respectivement plus de 98% et plus de 95%. Alors, la nature et l'ampleur de cette autonomie doivent maintenant être négociées avec le gouvernement avant d'être validées par le Parlement. Les deux régions, vous le disiez, sont parmi les plus riches en Italie. Elles contribuent à elles deux à près d'un tiers du PIB italien. Elles présentent un solde fiscal de quelque 70 milliards d'euros. C'est la différence entre ce qu'elles versent en taxes et impôts à l'État central et ce qu'elles reçoivent au titre des dépenses publiques. Alors, Lombardie et Vénétie souhaitent réclamer la restitution de la moitié de cette somme, soit 35 milliards d'euros. Ce matin, le Conseil régional de Vénétie examinait le projet de loi qu'il compte présenter au gouvernement et le président de la région a déjà prévenu. Il demandera 23 compétences, le fédéralisme fiscal et les 9 dixièmes des taxes. Le ministre de l'Agriculture, le premier membre du gouvernement à s'exprimer depuis ses référendums, a lui d'ores et déjà prévenu que les questions fiscales comme la sécurité n'étaient pas négociables. On s'achemine donc sans doute vers de longues et délicates tractations avec au centre des discussions les questions d'argent. Qui paye pour qui? Et ce message donné par les électeurs lombards et vénitiens ce week-end, nous ne voulons plus payer pour les autres.
Voilà, c'est les partisans de l'autonomie qui répètent que leur démarche n'a rien à voir évidemment avec ce qui se passe en Catalogne. Et cependant, il y a ce point commun que vous citiez qui apparaît clairement des populations de régions plutôt riches qui ne veulent pas donc payer pour les plus pauvres. Une aspiration qui a le vent en poupe finalement dans toute l'Europe, Marie-Pierre.
Oui, avec un risque de voir les forces centrifuges gagnées en puissance en Italie aujourd'hui, en Catalogne d'une certaine façon, en Flandre, mais aussi en Grande-Bretagne avec le Brexit, en Tchéquie ce week-end. Le sentiment qui domine et anime ces votes, c'est une défiance grandissante envers les États centraux et au-delà envers l'Union européenne. L'heure n'est plus à l'Union, ou en tout cas moins à l'Union et à la solidarité. La Ligue du Nord en Italie demande ainsi, et c'est emblématique, moins de bureaucratie, moins de contraintes de l'État et de l'UE, moins de gaspillage. Alors, il y a eu défaillance sans doute de ces organes centraux de pouvoir, mais force est de constater que les égoïsmes locaux ont le vent en poupe et ce n'est pas forcément qu'une question d'argent. Ce refus de partager la souveraineté, voire ce repli sur soi, sur le même, sur le connu, on l'a aussi vu à l'œuvre en Tchéquie ce week-end avec la victoire du populiste Babiš. Le président du Parlement européen lui mis en garde. L'Europe, dit-il, doit craindre la multiplication des petites patries.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Un petit mot là-dessus peut-être Amélie de Montchalin, puisque l'Europe est en difficulté, on le voit en institutionnellement. Et puis, il se trouve que depuis plusieurs mois maintenant, on voit cette tentative ou cette tendance à la désagrégation régionale. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une tendance lourde, on va dire, qui risque de provoquer aussi une sorte d'éclatement de l'Europe ?
Moi, je ne pense pas que ça soit un sujet à prendre au niveau de l'éclatement de l'Europe. Ce que ça montre, en revanche, c'est que les démocraties européennes ont toutes eu à vivre des crises économiques profondes depuis déjà presque une dizaine d'années maintenant, et que cette crise économique, elle laisse des séquelles, elle laisse des traces identitaires, culturelles, nationales. Et ce qu'on voit, que ces débats de répartition de la richesse, on les a eus aussi, nous, dans notre Assemblée, au cours des 5 jours et 5 dernières nuits de débats budgétaires, où justement les régions et les collectivités locales appellent à la fois à de l'autonomie, tout en demandant de la solidarité. Et cette autonomie et solidarité sont deux concepts qui sont compliqués à mettre en œuvre de manière complètement synchrone. Donc on a vraiment une question qui est à quel point, effectivement, il y a une dynamique locale qui peut s'instaurer, et puis à quel point il y a une vraie solidarité qui est celle de notre République, en l'occurrence, ou celle d'un État-nation qui doit rester un et indivisible. Ce que ça montre aussi, je pense que c'est... la division, attiser les peurs, jouer électoralement aussi de ces logiques un peu plus territoriales, ça peut être rentable pour certains hommes politiques à certains moments. C'est extrêmement dangereux à long terme parce que on l'a vu en Écosse, on le voit effectivement avec le nord de l'Italie, on le voit en Catalogne. Les forces, comme vous dites, centrifuges, peuvent à un moment donné mener sur des chemins qui politiquement sont extrêmement dangereux, potentiellement violents. Et ça, c'est vraiment une ligne rouge avec laquelle, de laquelle il faut qu'on soit tous conscients.
Voilà, en arrivant à concilier autonomie donc et solidarité, comme vous venez de le dire, Amélie de Montchemin, merci. On va vous retrouver pour la séquence interview.
La suite du journal d'Antoine Mercier, midi 45 sur France Culture. La droite nationaliste l'emporte au Japon après les élections d'hier. Le premier ministre conservateur Shinzo Abe détient un nouveau mandat doté d'une très confortable majorité.
Ouais, il remporte effectivement les deux tiers de la chambre basse et ça lui donne théoriquement les coudées franches pour réformer la constitution pacifiste japonaise. Texte rédigé, on s'en souvient, à la demande des États-Unis, c'était en 47 et dont l'article 9 consacre la renonciation du Japon à jamais à la guerre. C'est une interdiction qui est donc indéfinie et dont voudrait sortir le Premier ministre grâce à cette nouvelle majorité, Frédéric Charles.
Oui, pour Shinzo Abe, l'article 9 de la Constitution pacifiste est une humiliation parce qu'il refuse au Japon le droit de faire la guerre pour résoudre des conflits. Tant que la Constitution ne reconnaîtra pas non plus l'existence de l'armée japonaise, le Japon ne sera pas un pays souverain à part entière parce qu'il continuera de dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Shinzo Abe a aujourd'hui une chance sans précédent de modifier la Constitution. Il dispose d'une majorité de deux tiers dans les deux chambres du Parlement. Les partis en faveur d'une révision ont remporté 80% des sièges à la chambre basse du Parlement. Pour être adoptée, une révision doit encore réunir une majorité lors d'un référendum. Selon un sondage, aujourd'hui, 32% des Japonais sont favorables à une révision. 21% y sont opposés, 39% disent ne pas savoir. L'opinion japonaise pacifiste est vieillissante. Les jeunes japonais sont en faveur de la révision. Ils sont sensibles au discours de la droite centré sur le sentiment d'identité nationale. Le Premier ministre ne cherche pas à réarmer le Japon. Le budget de la défense représente à peine 1% du PIB. Il veut encore renforcer l'alliance avec les États-Unis, car le Japon préfère toujours s'abriter sous le parapluie nucléaire américain plutôt que de posséder sa propre bombe atomique.
Merci beaucoup, Frédéric Charles. Vous étiez donc avec nous en direct de Tokyo. Voilà, avant de retrouver l'invité, notre invité à l'Assemblée pour parler notamment du vote du budget demain, retour sur cet épisode économico-politico-judiciaire dont le gouvernement tente maintenant de sortir. Le gouvernement qui ouvre des discussions avec le patronat sur la mise en place d'une contribution exceptionnelle des grandes entreprises pour financer l'arrêt de la taxe de 3% sur les dividendes qui a, on le sait, été retoqué par le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a chiffré à près de 10 milliards d'euros les coûts de remboursement et aussi des litiges liés à cette taxe votée en 2012. Frédéric Seiss, monsieur le maire, le ministre de l'économie, parlait vendredi de scandale d'État, une accusation qui n'a pas de sens, affirmait ce matin Manuel Valls. Nous sommes en tout cas au début de la présidence Hollande en 2012, donc quand cette taxe est votée, la présidence Hollande confrontée, comme le gouvernement actuel d'ailleurs, au déficit budgétaire.
Au début du quinquennat de François Hollande, il s'agit tout simplement de trouver de l'argent. Le président s'est engagé à réduire drastiquement les déficits, gonflés au sortir de la présidence Sarkozy et de la crise financière. Alors le gouvernement met en place cette taxe. 3% seront prélevés sur les dividendes versés par les entreprises. Un amendement d'un député socialiste étend même ce dispositif. Désormais, les sociétés françaises qui reçoivent des dividendes de leurs filiales européennes seront également prélevé. Mais la justice européenne conteste cet amendement. Saisie par le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union estime que pour les entreprises, cette taxe revient à prélever deux fois les bénéfices, une première fois dans le pays où est implantée la filiale, une deuxième fois en France où est implantée la maison mère. Un premier pan de cette loi tombe donc, il en entraîne d'autres, car si désormais les filiales européennes sont exonérées, pourquoi pas les filiales françaises ? Il y a un problème d'égalité devant l'impôt, ce qui conduit le Conseil constitutionnel, le 6 octobre dernier, à censurer l'ensemble de cette taxe sur les dividendes. Il faut donc tout rembourser. Bercy chiffre la somme à 10 milliards d'euros pour se faire une idée. Cela équivaut à une fois et demie le budget du ministère de la Justice.
Voilà, le paradoxe, Frédéric, c'est que la question d'aujourd'hui est un peu la même que celle d'hier. Comment trouver 10 milliards pour combler le manque à gagner? L'habillage sera sans doute cette fois-ci différent et les précautions juridiques seront aussi renforcées.
Alors le gouvernement avait déjà provisionné des sommes pour les prochains budgets, mais elles sont bien trop faibles. 300 millions cette année, puis 1,9 milliard les trois suivantes. Insuffisant, d'autant que les entreprises sont fondées à demander le remboursement en une seule fois. Ce matin, Bruno Le Maire évoque deux pistes. D'abord, parvenir à établir un échéancier pour rembourser peu à peu, pour diluer la charge, ou bien créer un nouveau prélèvement sur les entreprises dont il ne donne pas de détails pour l'instant, si ce n'est pour préciser une nouvelle fois que cet imbroglio financier est bien lié au gouvernement précédent. Autrement dit, le ministre compte en assumer le coût budgétaire, mais pas le coût politique.
Amélie de Montchalin, on revient vers vous, députée de La République En Marche de l'Essonne, avec à vos côtés Stéphane Robert. Avant de parler peut-être du budget ou d'autres questions politiques, une réaction peut-être sur cette polémique. Est-ce que vous parleriez, vous, de scandale d'État comme l'a fait le ministre de l'Économie ?
Attendez, c'est pas une polémique, c'est une réalité qu'on doit assumer parce qu'effectivement, le gouvernement précédent a pris une mesure qui est contraire au droit européen, qui est donc contraire à notre constitution. En 2012, à partir de 2015, il apparaissait que la mesure avait des vraies fragilités légales et au-delà de l'insincérité, dont on a beaucoup parlé dans le budget 2017 cet été, on voit ici qu'il y a eu de l'imprévision. Le problème, il est autant d'avoir choisi un outil qui n'est pas légal, mais surtout de ne pas avoir provisionné assez au vu d'une décision de justice qui semblait de plus en plus attendue et évidente.
Mais M. Cazeneuve soulignait que M. Macron était à l'Élysée à ce moment-là.
Alors, attendez, les ministres décident, les conseillers conseillent. Donc, la responsabilité, elle est dans ceux qui décident. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu la décision de 2012. Moi, ce qui me choque surtout, c'est à partir de 2015, quand il apparaît que cette mesure n'est pas légale, qu'on sait qu'il va y avoir une décision de justice, on sait qu'il y a un recours, et à ce moment-là, l'État ne provisionne pas assez pour pouvoir rembourser aujourd'hui les sommes qui lui sont dues. Moi, je suis plus choquée par l'imprévision, par le fait qu'on considère que on verra bien, plus que par la mesure elle-même au départ, qui n'était pas unanimement reconnue comme anticonstitutionnelle, sinon elle n'aurait pas été votée. Donc voilà, ce que je vois aussi, c'est l'importance pour nous, budgétairement, de bien isoler le problème. C'est-à-dire qu'on est là face à quelque chose qui est de l'ordre de la justice, du règlement, du remboursement, et qui ne doit pas, j'allais dire, impacter ou polluer toute la transformation fiscale, économique et budgétaire qu'on lance par ailleurs dans ce plan de finances, projet de loi de finances, duquel je crois que je vais être amené à parler un peu plus longuement juste après.
Question de Stéphane Robert.
Oui, alors. On vote demain le premier vote, puisqu'on vote le volet recette de ce budget. Il n'y aura pas de problème.
Il n'y aura pas de problème. Tous les députés aujourd'hui En Marche ont fait campagne pour ce budget. Ils ont fait campagne pour que, effectivement, on fasse une réforme fiscale, que, effectivement, on baisse, puis on annule la taxe d'habitation, que, effectivement, on remette notre pays dans une logique d'investissement et d'un pays où l'emploi et le travail payent. Donc, les députés vont forcément, dans la cohérence de leur élection, voter ce budget qui est dans la pleine cohérence des engagements du président de la République.
C'est un budget qui est qualifié par la gauche de budget pour les riches. La droite critique de son côté la CSG, ça ce sera pour le projet de loi finance sécurité sociale qui va venir, et puis il critique également la taxe d'habitation. Est-ce qu'on est dans les postures ou est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, une part de réalité dans les critiques qui sont émises?
Les critiques, il faut toujours les écouter. Parce que d'abord, on a bien vu dans l'exemple précédent, il faut ne pas être sourd à ce que vous disent ceux qui ne sont pas toujours d'accord avec vous. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, ce budget, il n'est pas pour les riches, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est pour deux choses, il est pour l'emploi et il est pour l'investissement. Nos mesures, elles sont calibrées pour qu'on crée de l'emploi et pour que le travail paye, et il est aussi calibré pour qu'on réinvestisse. Ça veut dire quoi investir? Ça veut dire qu'on remet de l'argent dans ce qui peut demain, dans 5 ans, dans 10 ans, nous permettre d'être et de rester une puissance économique forte. Et c'est la seule condition à la création d'emplois. Si nos entreprises continuent de vivoter, si nos entreprises continuent d'être sous-financées, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur l'emploi, le chômage ne baissera pas. Il faut que les entreprises aient envie et de la visibilité et de la cohérence pour pouvoir embaucher. Et l'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que les entreprises puissent se financer autrement qu'en allant voir leurs banquiers. Parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont très endettées et elles passent leur temps à vouloir rembourser leurs dettes. C'est leur devoir puisqu'elles sont endettées. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des fonds propres. Et dans les fonds propres, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse cette grande réforme fiscale.
Dernière question courte.
Vous êtes ce qu'on appelle la whip de l'Assemblée. Whip, c'est un terme, ça veut dire fouet, et ça correspond à une fonction, ce terme anglo-saxon, c'est-à-dire vous êtes chargé de la discipline de vote. Alors déjà, ça n'existait pas chez nous, dans notre Assemblée à nous, et qu'est-ce que vous faites précisément? Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'être convaincus, les députés En Marche?
Alors, c'est surtout un rôle qui, au sein de chaque commission, est là pour assurer la coordination entre les députés. On a 38 députés En Marche à la Commission des Finances. Chacun des groupes, tous les autres groupes, ont un porte-parole, ont un coordinateur qui est là pour s'assurer que le travail se fait de manière organisée. Mon rôle, c'est surtout de donner une dynamique collective et un travail de fond autour du budget. Pour que nous, les parlementaires, on se reprenne vraiment notre rôle. On n'est pas là juste là pour voter et lever le bras. On est là pour comprendre ce qu'il y a dans ce budget, comment les uns et les autres, on va en détail analyser mesure par mesure les angles morts, les choses qui ne marchent pas forcément bien, qu'on travaille avec le gouvernement, on négocie, on amende et on enrichit le texte. Et mon rôle, c'est de faire que tout ce travail collectif soit vraiment le plus actif possible, le plus pertinent, le plus sérieux, et que quand on arrive à l'Assemblée pour voter, eh bien, le budget qu'on a en face de nous, c'est à la fois celui du gouvernement et c'est celui aussi qui découle de notre travail.
Donc vous n'êtes pas là pour fouetter, plus pour expliquer.
Moi, je suis là pour émulsionner. Vous savez, en anglais, on dit aussi whipped cream, c'est la crème fouettée ou la crème chantilly. Et je me sens beaucoup plus dans cette action d'émulsion que dans cette action de fouet, parce que ça ne correspond pas du tout à mon caractère.
Voilà, deux sortes de fouet. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en direct de l'Assemblée avec Stéphane Robert. Un tout petit mot des incendies en Corse, puisqu'un incendie a détruit 1600 hectares de végétation en Haute-Corse. Des flammes qui ont été attisées par des rafales de vent très violents jusque dans le milieu de la nuit. Le temps toujours gris et humide au nord, plus sec et ensoleillé au sud. Température 13 à 23 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.